Père de gloire, nous te remercions pour cette journée que tu nous as donnée dans ta grâce. Pour nous qui sommes ici à Raleigh, c'est une journée ensoleillée. Et nous avons toujours besoin de ton soleil, Seigneur. Et ça nous donne de l'espoir. Oui, même dans le froid, l'espoir est toujours là, puisque tu es le Dieu qui est présent partout. Seigneur de grâce, nous sommes venus, comme tu sais, pour écouter ta parole. Hier, tu nous as parlé à propos de dirigeants, des bergers, des pasteurs. Aujourd'hui, tu as aussi quelque chose à nous parler. Et nous sommes à ton écoute. Nous sommes prêts, Seigneur, à recevoir ce que tu nous donnes. Nous prions pour les nôtres. Nous te demandons de presser leurs pas pour que tous ensemble, nous nous réunissions autour de ta parole. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous te prions et disons Amen.
Amen.
Oui. Merci beaucoup. Mes bien-aimés, nous pouvons prendre notre Bible et l'ouvrir au 34e chapitre d'Ézéchiel, Ézéchiel le prophète. Nous sommes au verset 17 aujourd'hui. Nous partons de là jusqu'à la fin de ce chapitre, c'est-à-dire jusqu'au verset 31. Nous demandons à maman Pétronelle de nous lire ce passage pour la gloire du Seigneur. Ézéchiel 34, verset 17.
Ok, merci papa José. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Livre de Ézéchiel au chapitre 34e. Verset 17 jusqu'à 31.
Ok.
Dieu vient au secours de son peuple. Quant à mon troupeau, voici ce que je lui déclare, moi le Seigneur Dieu. Je vais être juge entre les bêtes du troupeau, entre les béliers et les boucs. Pourquoi certains d'entre vous ne se contentent-ils pas de paître dans le meilleur pâturage? Pourquoi piétinent-ils encore l'herbe qui reste? Ne vous suffit-il pas d'avoir une eau claire à boire? Pourquoi troublez-vous avec vos pattes ce que vous n'avez pas bu? Le reste de mon troupeau est obligé de manger l'herbe que vous avez piétinée et de boire l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, je vous déclare ceci. Je veux être juge entre les bêtes maigres et les bêtes grasses de mon troupeau. Vous avez bousculé de l'épaule et du flanc les bêtes affaiblies. Vous les avez repoussées à coups de cornes jusqu'à ce que vous les ayez chassées du troupeau. Je viens donc à leur secours pour qu'elles ne soient plus livrées à des ravisseurs. Et je veux être juge entre elles et vous. Je mettrai à la tête de mon troupeau un unique berger qui saura en prendre soin. Ce sera mon serviteur David. Lui, il prendra soin des bêtes du troupeau, et il sera un vrai berger pour elles. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera leur prince. C'est moi, le Seigneur, qui l'affirme. Je m'engagerai à assurer la paix de mon troupeau. Je ferai disparaître du pays tous les animaux sauvages. Alors mes bêtes pourront demeurer en sécurité dans les pâturages et dormir dans les bois. Je leur permettrai de vivre aux alentours de ma montagne sainte. Je ferai tomber la pluie à la saison qui convient, et ce sera une source de bienfaits. Les arbres porteront des fruits, la terre fournira ses produits, et chacun vivra en sécurité dans le pays. Je briserai les chaînes qui asservissent les membres de mon peuple. Je le délivrerai de ceux qui les ont rendus esclaves, et ils seront alors convaincus que je suis le Seigneur. Des ravisseurs étrangers n'en feront plus leur proie. Des animaux sauvages ne les dévoreront plus. Ils vivront à l'abri du danger, et personne ne leur causera plus de froid. Je leur donnerai des champs réputés pour leur fertilité. Ils ne souffriront plus de la faim dans leur pays. Les autres peuples cesseront de les accabler de mépris. Tout le monde saura que moi, le Seigneur, leur Dieu, je prends leur parti et que le peuple d'Israël est vraiment mon peuple. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. Oui, vous, les membres de mon peuple, vous, les membres de mon troupeau, vous êtes des hommes dont je prends soin. Car je suis votre Dieu. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. Parole du Seigneur.
Rendons gloire à Dieu.
Gloire au Seigneur, à notre Dieu. Oui, merci beaucoup, maman Pétronelle, pour la lecture. Bien-aimée, hier, comme nous l'évoquions dans la prière, le Seigneur nous a parlé des dirigeants, des pasteurs, des bergers qui n'étaient pas à la hauteur de leur tâche puisque ils ont malmené les brebis du Seigneur. Et le Seigneur, hier, s'est engagé à prendre soin de ses brebis, de ramener ce qui était parti, de panser les plaies de ceux qui ont été blessés et de donner la vigueur à ceux qui étaient fatigués. En un mot, de s'occuper sérieusement de ses brebis. Aujourd'hui, il est essentiellement question de brebis, du troupeau, le troupeau du Seigneur, le brebis du Seigneur. Au verset 16, à la fin, le chapitre 34, verset 16, le Seigneur dit ceci, lisons tout le verset, « J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est écartée, je panserai celle qui s'est blessée, je rendrai des forces à celle qui est malade. Mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. Je dirigerai mon troupeau selon les règles de la justice. Ce 16e verset a introduit très bien le passage d'aujourd'hui. Le Seigneur a promis d'éliminer celle qui est trop grasse et trop vigoureuse. Pourquoi? Parce que au verset 17 et suivant, le Seigneur a remarqué que il y a certains animaux, certains béliers ou boucs, en aimant d'autres animaux, ont écrasé. Certains animaux ont écrasé d'autres. Le plus fort se sont occupés de leur ventre, ils ont oublié complètement les autres. Alors, le Seigneur, aujourd'hui, il dit, même ceux-là, le plus vigoureux, je ne vais pas m'occuper d'eux. Je vais plutôt voir ce qui était négligé, m'occuper de ceux-là. Et avant de terminer, il ajoute une note très positive, parce que c'est une note prophétique. Lorsque le Seigneur parle de David, bien aimé, historiquement parlant, David était déjà mort. Il était déjà mort. C'est la génération ou les générations qui sont venues après que le deuxième roi d'Israël soit mort. Mais il l'évoque ici, il dit au verset 23, « Je mettrai à la tête de mon troupeau un unique berger qui saura en prendre soin. Ce sera mon serviteur David. » Et il continue. Quel David s'agit-il ici? Voilà, bien-aimé, je m'arrête là. Nous allons partager et nous allons bien sûr parler de ce David, dont il est question ici. Merci.
Amen.
Nous avons deux questions. Trois. La question numéro 2 sur la Trinité, la question numéro 7 sur la vérité que le passage nous révèle, et on nous donne aussi la question numéro 8. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aide à comprendre ce que j'ai lu? Voilà, ce sont là les questions proposées que nous devons répondre. Bien, voilà, vous avez la parole, bien-aimé. Nous souhaitons partir à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. Et là, nous parlons courtement pour nous permettre de terminer le passage. Le souhait est que nous parcourions tout le passage lu. Merci. Vous avez la parole, bien-aimée.
Papa, nous donnons la parole à maman Christine du Canada.
Oui. Qu'elle prenne cette parole. Maman Christine, la parole.
Oui, merci beaucoup, Papa José des États-Unis, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 17.
Oui.
Oui, le modérateur l'a si bien introduit. Nous avons vu au verset 16 des reproches que Dieu faisait au pasteur à ce qui concerne les brebis. Et il ne s'est pas arrêté là-bas, ce brebis. Il ne s'est pas arrêté. Maintenant, c'est le tour des brebis gras et des brebis entre eux, le jugement. Au verset 17, c'est le jugement. Dieu est en train de dire, je jugerai entre, voici, je jugerai entre les brebis. Donc, c'est-à-dire des brebis gras et des brebis qui sont moins gras, minces, je dirais. Et le jugement entre les béliers et les boucs. Pourquoi il va exercer un jugement? Pour dire que quand les brebis sont ensemble, les boucs, tout ça, des troupeaux doivent pas être égoïstes. Quand il a quelque chose, il doit penser aux autres. Donc quand ils sont plus graves, plus vigoureux, c'est-à-dire ils ont piétiné sur les autres. Et Dieu n'est pas d'accord. Mais pour moi, c'est une interpellation pour dire que Dieu ne jugera pas seulement le comportement de pasteur vis-à-vis des brebis, mais mon comportement, moi, comment est-ce que je me comporte quand je suis entre nous les brebis, entre les boucs, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je considère les autres? Est-ce que devant ma faim, je pense aux autres? Devant tout ce que j'ai, est-ce que quand je pense, la question c'est que, est-ce que je pense aussi aux autres? Voilà l'interpellation que la parole me donne, ce que je voulais partager avec vous. Amen.
Merci beaucoup. Est-ce que je pense aussi aux autres? Oui. C'est une question que chacun de nous est appelé à répondre. Je pense aux autres, parce que le jugement qui vient ici est dû au comportement que certains animaux ont affiché vis-à-vis des autres. Et Dieu regarde tout ça.
Amen.
Le Seigneur a parlé contre les bergers, les pasteurs et tout. Oui, oui, c'est ça. Et maintenant, vous, les brebis, comment comportez-vous entre vous? C'est ça la question aujourd'hui. Merci beaucoup, notre sœur. Maman.
Nous donnons la parole à maman Christine d'Angleterre. Et puis, Pétronelle après ça.
Ok.
Oui,
ok. Maman Christine. De l'Angleterre.
Merci, papa, pour la parole. En lisant le verset 18 et 19, bien-aimé, j'ai compris une chose qui est ici, une chose que le Seigneur reproche à ses brebis. C'est vrai qu'il a promis au verset 16 qu'il allait paître ses brebis avec justice. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué qu'il y a des brebis qui foulent la grâce aux pieds, qui foulent tout ce qui vient de faire aux pieds. Parce qu'il leur a posé la question, est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? Donc Dieu leur a accordé la grâce, leur a accordé sa parole, si je peux l'interpréter ainsi, bien aimé. Dieu nous a accordé beaucoup, nous avons vu dans le livre de Romains comment nous avons reçu cette grâce de le connaître en profondeur à travers sa parole, en l'acceptant par la foi, tout ça. Et voilà que nous sommes à l'église, c'est vrai que chacun a un niveau, nous avons des statuts différents, nous avons beaucoup de différences entre nous, mais devant Dieu, nous sommes égaux, nous sommes des frères et sœurs. Mais qu'est-ce que les autres font? Ils profitent peut-être de leur situation sociale pour pouvoir tordre la parole de Dieu, pour pouvoir fouler la grâce aux pieds. Et cela, bien-aimé, ça scandalise les petits troupeaux, ça scandalise ceux qui sont faibles, bien-aimés. Quand vous voyez un frère, un soi-disant frère qui est ministre, un soi-disant frère qui a une situation élevée, qui est en train de tordre la parole, c'est-à-dire en train de se comporter, donc de faire le contraire de ce que la parole demande. Et puisque nous avons vu hier que le pasteur se taisait, parce que ce frère-là, il donne une grosse somme comme dîme et comme offrande, et ce frère est en train de tordre la parole, et le petit peuple, qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger les miettes, il va manger ce qu'on a foulé au pied, il va manger la saleté, bien-aimé. Donc, ce n'est pas bien. Je trouve que vraiment c'est injuste. C'est pourquoi notre Dieu, comme il est juste, il s'insurge, il s'élève pour pouvoir juger et puis punir le coupable. Voilà, bien-aimé, la leçon que je retire ici est que, quelle que soit la position sociale que je peux occuper, si aujourd'hui Dieu permettait que je puisse devenir je ne sais pas qui dans ce monde, que je ne puisse pas fouler cette grâce qu'il m'a accordée à travers sa parole au pied, au point de vouloir scandaliser même ses enfants qui sont faibles, qui sont maigres, alors que moi je suis grâce. Donc c'est ce que je voulais ajouter, bien aimé. Merci.
Merci beaucoup. Merci notre sœur pour cette interprétation, ce partage qui nous édifie. Merci. Maman Pétronelle.
Merci, papa. Je prendrai à partir de 18, verset 18 jusqu'à 21. Nous allons voir un peu ce que Dieu a mis à cœur, m'a mis à cœur comme interpellation surtout. Pourquoi certains d'entre vous, donc il y a beaucoup, beaucoup de questions, je lis seulement la première question, pourquoi certains d'entre vous ne se contentent-ils pas de paître dans le meilleur pâturage? Pourquoi piétinent-ils l'herbe, etc.? Pourquoi, donc, pourquoi troublez-vous avec vos pattes ce que vous n'avez pas bu? Voilà toutes ces choses que Dieu est en train de poser des questions, de nous interpeller. C'est une forte interpellation, mes bien-aimés. Alors, ça concerne nous tous maintenant, en tant que brebis du troupeau, et je me vois, moi, personnellement, brebis dans mon assemblée. Ces questions, ces interpellations, et quel est mon témoignage de vie dans mon assemblée où je suis? Puisque Christ vit en moi et mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Et alors, qu'est-ce que je fais de ce temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à rester toujours dans le péché, dans le mal, à piétiner les autres, à ne pas secourir les faibles, à ne pas donner à boire ceux qui ont faim, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison? Qu'est-ce que je fais, moi, dans ces interpellations aujourd'hui en tant que brebis du troupeau de Dieu? Je suis au milieu de mon peuple. Est-ce que je continue toujours à patauger dans le péché? Je ne peux pas faire... Dieu m'interpelle justement pour que je puisse fuir le péché en permanence. À tout moment, je dois fuir le péché en tant que Saint-Esprit est en moi. Je ne dois pas l'attrister. Je ne dois pas l'attrister. Et c'est pour cela, le Seigneur, dans ces questions, je suis allé voir un peu dans le jugement, puisqu'il parle de jugement ici, comment Dieu va nous juger dans le chapitre de Matthieu 25. Il y a le jugement dernier, au verset 31 jusqu'à 46. Il y a le jugement dernier, et je me fais l'image de la vie éternelle, que quand viendra ce moment-là, où, de quel côté Dieu me mettra-t-il? Me mettra-t-il du côté de ceux qui avaient fait la volonté du Père, ou bien me mettra-t-il du côté de ceux qui vont être rejetés? Voilà les questions que je me suis posées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci.
Merci, merci notre sœur de te poser toutes ces questions, et ce sont des questions que chacun et chacune de nous se pose aussi. Oui. Et quand on regarde de près le passage, comme nous avons déjà remarqué, c'est toujours en rapport avec l'autre ou les autres. Vous avez bu de l'eau vous-même. Et comme votre soif n'est plus, vous piétinez l'eau pour qu'il y ait de la poussière afin que les autres ne boivent pas. Ou que les autres boivent de la poussière. Quel comportement! Vous mangez de l'herbe qui est fraîche, et tout ça, vous piétinez pour que celui qui vient, c'est sans problème, pour qu'il trouve de l'herbe déjà piétinée. Et quand on piétine là, il y a de la poussière qui est restée. L'herbe n'est pas propre. Vous laissez ça et vous partez. Voilà. Et tous ces comportements-là attirent l'attention du Seigneur. Oui. Et comment chacun de nous, chacune de nous, se comporte vis-à-vis des autres? Et ce sont des questions très importantes que nous devons vraiment prendre au sérieux. Et quand on pose toutes ces questions, on ne doit pas regarder les autres comment eux ils piétinent, mais qu'on se regarde soi-même comment moi je piétine l'herbe alors que mon frère, ma soeur n'a pas encore mangé.
Amen.
Merci. Merci beaucoup.
S'il vous plaît,
oui.
Papa. C'est pas de Paris qui veut parler, s'il vous plaît.
Oui, merci beaucoup.
Merci pour la parole, pasteur.
Oui.
Je vais ajouter quelque chose pour ce passage que nous sommes tentés de partager. Vraiment, il nous arrive souvent, parfois dans l'église, quand on est tenté de prêcher la parole, comme nous venons de lire, il y a d'autres, des prébis, donc c'est nous. Nous piétinons les autres. Comment? Parfois, on est en train de prêcher, je me penche, je parle à l'autre qui est à côté, qui est attentivement en train de suivre. Parfois, moi, je le bouscule pour dire que ce frère-là ou cette sœur-là, quand elle prie, quand elle parle, quand elle chante, moi, je n'aime pas. J'ai même envie de sortir, mais je n'aime pas. Donc, tu es tenté de contaminer l'autre, de tomber dans le piège comme toi. Ah, il n'a pas bien prêché. Ce qu'il dit là, ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, moi, je ne m'occupais même pas. Ou, à des fois, on est tenté de prêcher la parole, toi, tu fais semblant de dormir. Fermer les yeux, tu dors, tu ne suis même pas. Donc, ce sont des comportements que nous devons abandonner si nous sommes dans ce même cas. Parce que nous ne pouvons pas être obstacle de la foi d'une autre personne dans l'assemblée. La foi, c'est individu, est une foi personnelle. Si toi, tu veux pas suivre, si toi, tu n'aimes pas cette personne, ça te regarde toi-même. Tombe toi-même dans le piège, mais ne contamine pas l'autre. L'autre, parce que quand il est là, il est avec sa foi. On est en train de prêcher, toi, tu es là, tu te penches à ce côté, tu le distrais. Tu es en train de lui parler, finalement, il ne suit plus, il doit te répondre, tout ça, ça passe. Le temps passe. Dieu est là pour regarder tous ses comportements. Donc, il y a plein de choses, parce que le temps n'est pas... le temps est trop petit, mais il y a plein de choses. Maintenant, moi, j'ai compris que quand on vient à l'église, comme la foi est personnelle, il faut être concentré toi-même. Il ne faut pas contaminer l'autre, il ne faut pas distraire l'autre, il ne faut pas essayer de faire quelque chose pour même vous faire la distraction pour tout le monde. Ce n'est pas bien, parce que Dieu nous regarde.
Amen.
Bien, je voudrais m'arrêter seulement jusque-là, pardon.
Merci beaucoup, puisque Dieu nous regarde. il nous regarde et il voit que nous avons été à la base, par exemple, de la distraction de l'autre frère ou de l'autre sœur. Ce frère-là n'a pas bien suivi le message à cause de nous. Donc, Dieu voit ça. Et ce jeu-là, nous devons vraiment l'éviter. Ce n'est pas bien. Merci. Merci, papa.
Nous prenons la parole à maman Christine du Canada, s'il vous plaît.
Oui. Maman Christine,
Oui, merci, pasteur, pour la parole.
Oui.
Je continue, je suis au verset 20. Le Seigneur revient encore. Mais avant d'aller au 20, je voulais souligner quelque chose. Au verset 18, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est peu pour vous de paître dans le bon pâturage. C'est-à-dire, Dieu est en train de soulever ici le manque de reconnaissance de ce brebis gras. Parce que du fait d'être dans le bon pâturage, c'est une grâce. On doit être reconnaissant. Et au verset 20, il continue pour dire, voici, je jugerai, il répète encore, ce jugement, c'est entre les brebis, entre les boucs, comment ils se sont comportés entre eux. Ceux qui sont gras, c'est des brebis grasses et des brebis maigres. Pourquoi? Parce que vous avez été avec le côté et avec l'épaule, frappez à vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Bien-aimés, je réalise dans ce que parmi nous, quand nous sommes ensemble, les brebis, les boucs, tout ça, il y a de ceux qui sont forts et il y a de ceux qui sont faibles. Les bien-aimés ont cité quelques faits. Mais la Bible dit que vous avez même chassé, c'est-à-dire que un des brebis ou un des boucs a quitté même l'assemblée à cause de mon comportement. Pour dire que le comportement que je dois afficher, est-ce que parmi nous, est-ce que je ne mets pas mal à l'aise mon frère qui est à côté? Quand il vient dans une assemblée où il vient, et comment je me comporte? Parfois par la salutation. Je peux être là, je vois deux frères venir devant moi. Comme j'aime beaucoup maman Christine, me fait des petits cadeaux. Je vais vers maman Christine la saluer. Et l'autre sœur à côté, elle est là. Elle regarde. Parce qu'elle, elle ne me donne rien. Elle regarde. Les mots même que je prononce. Parfois, on se demande pourquoi l'assemblée se vide, on cherche à pointer les doigts ailleurs, mais les comportements qu'on affiche, quand il y a l'injustice, quand je me comporte, quand je considère les autres, je les respecte, les autres, je les traite n'importe comment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller. Moi, personnellement, il y a beaucoup d'interpellations pour dire que, bien aimé, le Seigneur, regarde, il le voit du haut de son trône. Que le Seigneur m'aide à être avec tous mes frères et mes soeurs de la même façon. Et que je n'use pas même par mon comportement afficher quelque chose qui peut décourager l'autre à ne même plus venir prier. Amen.
Amen. Oui, c'est très important. Quand le Seigneur dit que vous les avez repoussés à coups de cornes jusqu'à ce que vous les ayez chassés du troupeau. Oui. C'est grave, bien-aimé, si notre comportement a fait fuir les gens de l'Église. Et là, il y a plusieurs manières de chasser les gens de l'Église par notre façon de vivre, nous racontons beaucoup de choses. Nous racontons beaucoup de choses sur les autres. Et les gens, certaines personnes disent, ah, moi je ne vais pas là-bas parce que chaque fois, quand on va là-bas, un tel ou une telle est en train de raconter les histoires contre les autres. Alors moi, je ne vais pas. La personne va parce que nous avons raconté. Et même notre comportement à la maison, avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants, c'est un comportement bizarre, mauvais. Ça n'attire pas. Et la personne dit, ah, si c'est comme ça, à quoi vaut la peine, à quoi bon d'aller à l'église avec des gens qui ne sont pas très bien dans leur famille. Non, je quitte. Il y a plusieurs familles. Nous ne voulons pas donner raison à ceux qui quittent. Non, nous ne donnons pas raison à ces gens-là. Mais, selon la parole, notre comportement a permis aux autres de partir. C'est mauvais. Merci beaucoup, notre sœur. Nous avons terminé avec le verset 21. Oui. Verset 22. Verset 22, nous lisons, « Je viens donc à leur secours pour qu'elle ne soit plus livrée à des ravisseurs et je vais être juge entre elle et vous. » Voilà, c'est le Seigneur qui vient ici comme juge. Parce que tout au début là, au verset 17, il est dit, « Quant à mon troupeau, voici ce que je lui déclare, mon Seigneur Dieu, je vais être juge. » Voilà. Et ici, il vient en juge. Parce que nous nous sommes comportés très mal. Le Seigneur nous a comparés aux ravisseurs. Et il vient pour nous juger. Voilà, c'est mauvais. Le maître du troupeau regarde et se décide de venir lui-même s'occuper de son troupeau à cause du comportement des autres, à cause de mon comportement, à cause de ton comportement. Donc, ici, c'est une parole qui s'adresse encore à nous comme hier donc. Qu'on ne voit pas les autres, non. Ne voyons pas les autres, nous ne sommes pas de, comme hier, il était question de berger, bon, moi je ne suis pas berger, moi je ne suis pas ceci ou cela. Et aujourd'hui, il est question de troupeaux. Bon, hier nous n'avons pas été bergers, aujourd'hui aussi, nous ne sommes pas du troupeau. Alors, où sommes-nous alors? Cette parole, c'est notre parole, et prenons-la comme telle. Merci. Merci. Mm-hmm. Ça, c'est le 22e verset où le Seigneur se décide de venir au secours pour soutenir ceux qui étaient maltraités. Mm-hmm.
S'il vous plaît, papa.
Oui.
Maman Pétronelle demande la parole, s'il vous plaît.
Oui, maman Pétronelle.
Merci, papa. Je vais continuer avec le 23e verset. Oui, je vois notre Dieu comme il voit lui-même. Il se porte en juge et il décide de venir lui-même. Et il dit ici, dans le 23e, « Je mettrai à la tête de mon troupeau un unique berger qui saura en prendre soin. » Ce sera mon serviteur David, lui qui il prendra soin des bêtes du troupeau et il sera un vrai berger pour elles. Donc, ce verset me fait penser à ce que notre Dieu, en tant que juge, le Créateur, il voit le mal qui se passe dans ce troupeau avec les brebis qui sont là. Et alors, il se porte juge, il se porte garant de confier le travail à un unique berger. Et là, moi, je suis en train de penser justement à notre Seigneur Jésus-Christ, puisque Amen. Tout à l'heure, tu nous as fait mention de ce serviteur David. Était déjà... on parle de David, mais en réalité, ce n'était pas... C'est le Seigneur Jésus-Christ qui se cache là derrière. C'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui est l'unique berger, et c'est lui qui va s'en occuper. Il va s'en occuper des bêtes qui dérangent le berger pour les faire disparaître, et il va prendre soin de ses brebis. C'est pour leur donner la vie. Et c'est, je pense à notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger. Alors, je suis tout simplement en train de louer notre Dieu, puisque la phrase qui suit dit, c'est moi le Seigneur qui l'affirme. Dieu affirme cela. Alors, louange à toi, Seigneur Dieu.
Amen.
Que l'Esprit Saint de Dieu nous aide vraiment à être les brebis. Les brebis qui s'occupent des autres dans le troupeau, dans l'église, dans nos familles, là où nous nous trouvons, dans les assemblées. Les exemples sont tellement nombreux, comme disait notre frère Jean-José Ninkula et maman qui donnait des exemples de comportements, que nous ne soyons pas de côté de ceux qui font disperser les brebis de Dieu dans l'église. Que nous ne soyons pas de ce côté-là. C'est un contrôle permanent de tout un chacun de nous.
Amen.
Pour que le Seigneur puisse nous aider dans ce sens par son Esprit Saint qui est en nous.
Merci beaucoup, notre sœur. Ce berger-là dont il est question, c'est le Seigneur Jésus lui-même, le descendant de David. Oui. Donc, Dieu voit plus loin. En parlant d'Israël, de l'époque d'Ézéchiel, il voit plus loin. Il voit son fils qui vient pour prendre. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est le bon berger. Il a dit au chapitre 10 de Jean, « Je suis le bon berger ». Et c'est lui, oui, c'est lui le bon berger. Et Dieu parlait déjà de lui ici, et il est venu. Il est venu, il a fait son travail, il a laissé entre les mains du Saint-Esprit qui continue à faire ce même travail aujourd'hui à travers l'Église, des hommes et des femmes qui sont à son service. Voilà la parole de Dieu. Elle s'accomplit toujours. Celle-ci s'est accomplie. Le Seigneur Jésus est venu et il dira lui-même, « Je suis le bon berger. » Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a donné. Il a donné sa vie. Il est mort pour ses brebis. Que Dieu soit loué. Nous continuons très rapidement, bien-aimés, puisque le temps nous fait défaut. Qui veut encore partager? Oui.
Oui, papa, si je peux prendre le 25, s'il vous plaît.
Oui.
Oui, je complète ce que ma sœur venait de dire, que ce prince, ce roi David dont il est question, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, le mot « alliance » m'a touché pour dire que, après l'alliance que Dieu avait signée avec Abraham, la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui est venu la signer avec nous, la conclure avec nous par le biais de son sang. Le sang qu'il a versé la croix de Golgotha. C'est pour dire que c'est Jésus-Christ qui est venu mettre fin à toutes les hostilités. C'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui est le juste juge, c'est lui qui est tout pour nous. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il était venu, il est parti, il a fait son travail, il est parti. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui sied au milieu de nous, qui vit même au-dedans de nous. C'est ce Saint-Esprit-là qui peut faire disparaître les animaux sauvages de notre vie. C'est lui qui peut nous donner la paix et la joie, même si nous traversons des moments difficiles, même si nous sommes au milieu de tribulations de toutes sortes. Mais du fait que le Saint-Esprit est dans notre cœur, nous pouvons dormir en paix, nous pouvons vraiment être calmes. On n'aura plus personne qui viendra nous troubler. Donc, je bénis Dieu pour son Saint-Esprit qu'il nous a donné. Merci, bien-aimé.
Merci beaucoup. Merci. Le Saint-Esprit a pris le travail commencé, accompli par le Seigneur. Il continue avec ce travail jusqu'à la fin, jusqu'à la deuxième venue. Le Saint-Esprit ne nous quittera pas. Il sera avec nous. Merci. Tu veux encore ajouter quelque chose? Alors, on peut dire que à partir du verset 23 là, 24 surtout, jusqu'à la fin, c'est toujours Dieu qui parle. Oui, parle de ce qui va arriver. Et on peut dire que ce qui est arrivé, parce que ces prophètes, ces serviteurs de David là, dont il a cité David lui-même est déjà mort, mais ici c'est le descendant de David. Oui, c'est le vrai serviteur de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus qui est le bon berger et qui va donner sa vie, et il a donné sa vie pour ses brebis, nous savons. Et le Saint-Esprit continue son travail jusqu'à ce qu'il vienne pour la deuxième fois. Cette fois-là, c'est pour prendre son Église. Dieu continue toujours à agir. Alors, oui?
Oui, je voulais prendre le verset 25, s'il vous plaît. Donc, après, ça, c'est, le jugement est prononcé. Et le Seigneur est là. Qu'est-ce qu'il dit? Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans les déserts et dormiront au milieu des forêts. Même quand nous continuons la suite 26 aussi, c'est la même chose. Ça, c'est la promesse de la paix, la promesse de quand Dieu dit que je vais détruire du pays, je ferai disparaître du pays des animaux sauvages, c'est-à-dire ce qui nuit là à la vie du peuple. C'est profond, la délivrance même que Dieu promet ici, et ils vont vivre en sécurité réellement. Quand Christ vient dans notre vie, il fait disparaître vraiment les animaux sauvages, ce qui détruit à nous. Il nous donne le corps de la délivrance. Il nous accorde la paix, nous accorde la délivrance et nous vivons dans la paix au milieu des forêts. Quand on peut vivre dans la paix, c'est-à-dire la vie est totalement en sécurité. Donc ça, c'est vraiment des bénéfices que nous avons, que le Seigneur promet déjà là à partir de verset 25 et la suite aussi. J'aimerais m'arrêter seulement à ce verset 25 pour voir l'alliance, qu'est-ce que ça nous donne. C'est la sécurité. Il n'y a plus des animaux sauvages. Ça, c'est profond, vraiment.
Amen. Amen. Oui, depuis là jusqu'à la fin, c'est toujours les promesses que Dieu donne. Lorsque lui-même prend les choses en main en les confiant à son fils. Et ce qui arrive là est déjà arrivé et arrivera. Parce que la parole de Dieu ne s'arrête pas. Elle n'est pas pour un temps et puis après il s'arrête, après cela on ne voit pas. Non, ce n'est pas ça. Cette parole est déjà arrivé et ça se confirme de jour en jour. jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. J'aimerais que nous terminions avec le verset 31, et juste avant de lire les commentaires du jour. Au verset 31, « Oui, vous, les membres de mon troupeau, vous êtes des hommes dont je prends soin, car je suis votre Dieu. » Je l'affirme, moi le Seigneur.
Amen.
Cette parole s'adresse non seulement aux hommes, comme il est dit ici, vous êtes des hommes, et on voit dans les hommes les femmes dedans aussi. Donc, oui, vous les membres de mon troupeau, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes dont je prends soin. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui s'engage à prendre soin de nous. Et quand il s'engage, il le fait. Il le fait. Et dans le verset, il dit, « Je suis votre Dieu, je l'affirme moi-même. »
Amen.
Il l'affirme lui-même, notre Dieu. Donc, le Seigneur nous promet de nous prendre en main, de prendre notre cause en main. Il prend soin de nous. Donc, confions-nous au Seigneur, parce que c'est lui-même qui s'engage. Oui, c'est vrai, nous sommes dans l'Église, et dans l'Église de Jésus, il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas réellement sauvées, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu pleinement le Seigneur. Mais ils sont là. Ils sont là. Mais il y a aussi d'autres qui ont pleinement reçu le Seigneur. Et nous ne pouvons pas dire que dans l'Église, il n'y a que de mauvais. Non! Il n'y a pas que de mauvais. Il y a aussi des bons dedans qui ont trouvé la grâce du Seigneur, à qui Dieu a fait la grâce. Donc, notre souhait, nous demandons à notre Dieu de faire de nous des hommes et des femmes qui ont trouvé grâce à lui pour continuer à vivre selon sa volonté au sein de son Église, au sein de notre famille, au sein de notre groupe de prière, au sein de FIMES, que nous soyons ces gens-là. Que notre présence attire d'autres, au lieu de chasser les autres. Que notre façon de parler, de manière de nous comporter, en tant qu'homme, en tant que femme, soit une manière qui donne la joie aux autres de faire comme nous. Voilà. Que nous soyons donc les imitateurs du Seigneur Jésus lui-même. À ce moment-là, nous glorifierons notre Seigneur qui s'engage aujourd'hui de nous prendre en main, de faire de nous ses enfants, ses hommes, et ses femmes, et lui-même, il confirme cela par sa propre parole. Donc, faisons-lui confiance. Le Seigneur, il le fera, parce qu'il a confirmé lui-même et il ne ment point. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons dire de ce verset qui résume tout ce que nous avons dit. Et nous pouvons nous arrêter ici, que le Seigneur soit glorifié. Alors, je disais que nous puissions lire le commentaire. Il n'est pas assez long, je peux lire. Jugement, restauration et bénédiction. jugement. Ce jugement concerne uniquement les brebis. Dieu tranchera entre les brebis qui se sont bien comportées et les malveillantes qui se sont livrées à l'oppression des autres. Les faibles seront secourus, les violents, les égoïstes et les méchants, les oppresseurs seront détruits. De quel côté seras-tu? Restauration. La promesse de restauration faite par Dieu commence par l'établissement d'un unique pasteur. Allusion à peine voilée au Messie, Jésus-Christ, fils de David, qui paîtra toutes les brebis jugées dignes de sur la base de l'alliance de paix établie par Dieu, le Père. L'harmonie et la sécurité annoncées laissent entrevoir le futur règne de Christ auquel auront part tous ceux qui seront entrés dans la nouvelle alliance par son sang. Bénédiction. Conséquence immédiate. Les brebis restaurées seront désormais l'objet de la bénédiction divine. Plus de servitude, d'opprobre, de pillage. La terre produira toutes sortes de fruits, car la pluie des bénédictions tombera désormais. Cette bénédiction sera la preuve que celui qui les a rachetés est le seul Dieu, et elle, son peuple. Au-delà du bonheur que connaîtra le peuple d'Israël au retour de l'exil, ce tableau exceptionnel révèle la paix et la quiétude qui prévaudront dans le royaume millénaire où le loup habitera avec l'agneau et la panthère sera couchée avec le chevreau. Promesse, je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis. Ça, c'est le verset 22. Voilà, c'est le commentaire du frère. Nous sommes dans Ézéchiel 33-34 de Célestine Kemi d'Ogène Yanagatulum. Ouf! Elono, c'est du Tchad, notre sœur du Tchad. Merci beaucoup. Demain, nous allons lire la suite. Nous prenons alors le chapitre 35 d'Ézéchiel. Ézéchiel 35, 1 à 15, c'est-à-dire tout le chapitre. Il n'est pas long. Ça, c'est pour demain. Voilà, bien-aimés, nous allons terminer ici. Je donne, il est presque temps, je donne à Papa José la prière et je lui demande d'être très brève parce que il est 16 heures et nous risquons d'aller au-delà. Voilà, Papa José.
Seigneur, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir enseigné ce soir comment nous pouvons nous comporter vis-à-vis quand nous sommes en rendez-vous avec toi. Tu es notre Dieu, nous devons te laisser la première place et être attentif, et ne pas être distrait, et ne pas aussi être l'objet de l'obstacle de la foi de quelqu'un d'autre à nos côtés, mais que nous dépendons justement de toi. Merci pour toutes les leçons que tu nous as enseignées. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa José, pour la